Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
L'Angle Écho.
Alors François Langlais, la capacité à réformer de Michel Rocard est unanimement célébrée depuis maintenant 48 heures, depuis qu'on a appris sa mort. Mais était-ce vrai aussi au plan économique ?
En réalité, Rocard termine une décennie de réformes, comme la France en a peu connu, qui a commencé en 1983, jusqu'au début des années 90. Il faut retenir de son passage à Matignon trois actes économiques importants. La création de la CSG, tout d'abord. Vous savez, cet impôt qui frappe tous les revenus, ceux du travail, ceux de l'inactivité comme les pensions de retraite, et puis les revenus du capital. C'est une flat tax à la française, c'est-à-dire un taux unique qui s'applique sur une large base et prélevé à la source. Second acte, c'est le revenu minimum d'insertion, le RMI, qui a été une création à la fois nécessaire et moins heureuse. Moins heureuse parce que le RMI n'a jamais été un outil d'insertion, il est devenu un revenu de substitution, malgré les réformes incessantes qu'il a connues depuis. Et puis, le troisième acte, c'est le livre blanc sur les retraites, qui ne décide rien, mais identifie les problèmes et prépare la réforme à venir.
Vous parliez à l'instant d'une décennie de réformes.
Oui. Écoutez, rarement la France s'est autant transformée que durant les années 80, mais plutôt avant Rocard. Ce qui est frappant, c'est que c'est le fait de gouvernements de gauche comme de droite. Tout commence avec le tournant de 1983, conduit par Pierre Mauroy et Jacques Delors, où la France rompt avec la désastreuse relance, où on supprime l'indexation des salaires sur les prix. C'était une mécanique qui alimentait la hausse des prix. C'est une réforme très difficile à l'époque, qui fait chuter le pouvoir d'achat des Français, mais qui prépare la renaissance de la fin des années 80. Peu après, en 1984, c'est Laurent Fabius à Matignon qui restructure la sidérurgie, qui interrompt ainsi des années d'hémorragie financière et de soutien public, ou encore le groupe Boussac dans le textile, ou encore le groupe Renault qui est quasiment en faillite. On imagine mal de tels dossiers industriels aujourd'hui où le gouvernement se divise pour fermer Florange.
Des réformes qui ont été poursuivies par la droite.
Mais oui, tout à fait. En 86, c'est Chirac qui arrive à Matignon et qui réforme par ordonnance. Une rafale de privatisation, baisse des impôts et suppression de l'autorisation administrative de licenciement. À l'époque, il fallait en effet le feu vert de la direction du travail pour licencier. Là encore, au vu des difficultés de la loi El Khomri aujourd'hui, une telle réforme est impensable. Rocard arrive ensuite dans un climat idéologique apaisé, avec une conjoncture économique éblouissante, l'une des deux périodes de croissance les plus fortes depuis les Trente Glorieuses.
Pourquoi ces réformes d'hier, François, ne sont-elles plus possibles aujourd'hui dans un pays qui semble bloqué ?
Plusieurs raisons. Un, on avait encore l'espoir de retrouver une longue période de croissance à l'époque. Les efforts étaient donc, non pas plus faciles, loin s'en faut, mais moins durables. Enfin, c'est au moins le sentiment qu'on avait. Il y avait l'illusion que la crise pouvait s'en aller. Deux, tout ça a été fait au nom d'un projet auquel nous croyions. C'était l'Europe. La construction européenne a été l'aiguillon du changement pour la France. Et trois, c'est essentiel, on pouvait dévaluer le franc parallèlement pour stimuler la croissance par la demande extérieure. Ce qu'on a fait d'ailleurs abondamment dans les années 80. La dévaluation du franc a été l'huile du moteur social et économique français. Aujourd'hui, ça n'est plus possible à cause de l'euro. Plus de dévaluation, plus d'objectifs européens, et puis un sentiment que la crise est non pas temporaire mais éternelle. C'est beaucoup, beaucoup plus difficile de réformer aujourd'hui.
Et François Langlais.